Chapitre 67. De la bile et des crachats. J'ai choisi ma voix avec le plus grand soin. Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous disiez sur Raizé, y compris le grave danger qu'il représente. Dalinar s'arrêta sur le chemin en lacet qui descendait du pinacle avec Navani à ses côtés. Sous cette lumière déclinante, ils regardèrent un flot d'hommes redescendre dans les camps de guerre en provenance des plaines brisées. Les armées de Bétab et de Tanadal rentraient de leur course au pont, suivant leur haut prince sans doute rentré un peu plus tôt. En bas, un cavalier approchait du pinacle, apportant sans doute des nouvelles pour le roi. Dalinar se tourna vers un de ses gardes. Il en avait quatre ce soir, deux pour lui, deux pour Navani, et fit un geste.
« Voulez-vous les détails, Clarissime ?» demanda l'homme de pont.
« S'il vous plaît. » L'homme se mit à descendre la route sinueuse en courant. Dalinar le regarda s'éloigner, songeur. Ces hommes étaient remarquablement disciplinés, compte tenu de leur origine. Mais ce n'étaient pas des soldats de carrière. Ils n'aimaient pas ce qu'il avait fait en jetant leur capitaine en prison. Ils ne pensaient pas que ça deviendrait un problème pour autant. Le capitaine Kaladin les dirigeait bien. C'était exactement le genre d'officier que recherchait Dalinar. Le genre à faire preuve d'initiative, non pas à cause d'un désir d'avancement, mais de la satisfaction du travail bien fait. Ces soldats-là connaissaient souvent des débuts difficiles jusqu'à ce qu'ils apprennent à se maîtriser. Nom des foudres. Dalinar lui-même avait eu besoin qu'on lui imprime ce genre de leçon dans le crâne à différents stades de sa vie. Il continua à descendre lentement la route en lacet en compagnie de Navani. Elle paraissait radieuse ce soir, les cheveux ornés de saphirs qui brillaient doucement à la lumière. Navani aimait ses promenades avec Dalinar, et il n'était nullement pressé d'atteindre le festin.
« Je me dis souvent, » déclara-t-elle en reprenant leur conversation, « qu'il devrait y avoir un moyen d'utiliser les fabriaux comme pompe. » Vous avez vu les gemmes créées pour attirer certaines substances plutôt que d'autres. Elles sont très utiles, notamment pour attirer la fumée qui se dégage d'un feu. Pourrions-nous faire la même chose avec l'eau ?
Dalinar répondit par un grognement assorti d'un hochement de tête.
Dans les camps de guerre, il y a de plus en plus de bâtiments équipés de plomberies, poursuivit-elle, à la manière carbrantienne. Mais ils utilisent la gravité elle-même pour guider le liquide à travers leurs tuyauteries. « J'imagine un système avec des gemmes aux extrémités des conduites afin d'y attirer l'eau, à l'encontre de l'attraction terrestre. »
Nouveau grognement. « Nous avons fait une avancée dans la conception de nouvelles lames d'éclat l'autre jour. »« Ah oui ? Vraiment ? » demanda-t-il. « Que s'est-il passé ? Dans combien de temps en aurez-vous une de prête ?»
Elle sourit, le bras autour du sien.
« Qu'y a-t-il ? » ?
« Je vérifiais simplement si vous étiez toujours bien vous-même, » répondit-elle. « Notre avancée a consisté à comprendre que les gemmes serties dans les lames, utilisées pour se lier à elles, ne faisaient peut-être pas partie des armes à l'origine. »
Il fronça les sourcils. « C'est important ? » ?
« Oui. Si c'est exact, ça signifie que les lames ne sont pas alimentées par les gemmes. » Tout le mérite en revient à Rouchou, qui a demandé pourquoi l'on pouvait invoquer et renvoyer une lame même si la gemme était éteinte.
Comme nous n'avions pas de réponse, elle a passé ces dernières semaines en contact avec Carbrandt, grâce à l'un de ses nouveaux relais d'information. Elle a découvert un fragment de texte datant de plusieurs décennies après la félonie, qui parle d'hommes apprenant à invoquer et à renvoyer des lames en y ajoutant des gemmes. Après un accident de décoration, semblerait-il. Il fronça les sourcils tandis qu'il longeait un affleurement de schiste écorce sur lequel un jardinier travaillait de nuit, le limant précautionneusement tout en fredonnant pour lui-même. Le soleil s'était couché. Salas venait de se lever à l'est.
« Si c'est la vérité, » reprit Navani d'une voix joyeuse, « nous en sommes revenus au stade où nous ne savions strictement rien sur la fabrication des lames d'éclat. »
« Je ne vois pas du tout en quoi c'est une avancée. » Elle sourit et lui tapota le bras.
Imaginez que vous ayez passé les 5 dernières années à croire qu'un ennemi utilisait « guerre » de dialecture comme modèle tactique, mais que vous appreniez ensuite qu'il n'avait jamais entendu parler de ce traité.
Ah !
Nous supposions que, d'une manière ou d'une autre, la force et la légèreté des lames étaient un effet fabrial alimenté par les gemmes, expliqua Navani. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Il semblerait que la gemme n'ait d'utilité réelle qu'au départ, lorsque l'on se lie avec la lame, ce que les radieux n'avaient pas besoin de faire.
Attendez, ils n'en avaient pas besoin ?
Pas si ce fragment dit vrai. Il sous-entend que les radieux pouvaient toujours renvoyer et invoquer les lames, mais que pendant un temps, cette capacité fut perdue. Elle ne fut retrouvée que lorsque quelqu'un ajouta une gemme à sa lame. D'après le fragment, les armes changeaient même de forme afin d'adopter les pierres, mais je ne sais pas dans quelle mesure je m'y fie. Quoi qu'il en soit, après la chute des radieux, mais avant que les hommes n'aient appris à placer des gemmes dans leurs lames et à se lier avec elles, ces armes étaient apparemment, malgré tout, d'un tranchant et d'une légèreté surnaturelle, bien qu'il soit impossible de se lier avec elles. Ce qui expliquerait plusieurs autres récits que j'ai lus et trouvés déroutants.
Elle poursuivit d'une voix dont le son enchantait Dalinar. Les détails de l'installation fabriale n'avaient rien d'urgent pour lui à l'heure actuelle. Il s'en souciait bel et bien. Il le fallait, à la fois pour elle et pour les besoins du royaume. Simplement, il ne pouvait pas s'en soucier pour l'instant. Il passait mentalement en revue les préparatifs pour l'expédition dans les plaines brisées. Comment protéger les spiricantes des regards, comme il le souhaitait? Les installations sanitaires ne devaient pas poser problème. Et l'eau serait disponible en abondance. Combien de scribes faudrait-il amener? Et combien de chevaux? Il ne restait qu'une semaine, et la majeure partie des préparatifs était en ordre, comme les ponts mobiles et les estimations de fourniture. Il restait cependant des choses à planifier. Malheureusement, la plus grande variable était impossible à prévoir avec précision. Il ignorait de combien de soldats il disposerait. Tout dépendait des hauts princes qui accepteraient ou non de l'accompagner, s'il y en avait. Il restait moins d'une semaine, et il ignorait toujours si un seul d'entre eux le ferait. « C'est de Hatam que j'aurais le plus besoin », songea Dalinar. « Son armée est très rigoureuse. » Si seulement Aladar ne s'était pas allié à sa déesse avec un tel enthousiasme. Je n'arrive pas à cerner cet homme. Tanada les Bétab, sainte bourrasque. Est-ce que j'emmènerai leurs mercenaires si l'un d'entre eux accepte de venir? Est-ce là le genre d'armée dont j'ai envie? Oserais-je refuser la moindre lance qui se présentera à moi?
Je n'arriverai pas à vous soutirer la moindre conversation ce soir, n'est-ce pas?
Demanda Navani. « Non, » admit-il tandis qu'ils atteignaient la base du pinacle et prenaient la direction du sud. « Je suis désolé. » Elle hocha la tête et il vit son masque se fêler. Elle parlait de son travail parce que c'était un sujet de discussion. Il s'arrêta à côté d'elle. « Je sais que c'est douloureux, » dit-il tout bas. « Mais ça s'améliorera. »
Elle refusait de me laisser être une mère pour elle, Dalinar, répondit Navani en regardant fixement au loin. Est-ce que vous savez ça? C'était presque comme si... Une fois Jasna entrée dans l'adolescence, elle n'avait plus besoin d'une mère. J'essayais de me rapprocher d'elle, et il y avait cette froideur, comme si ma seule proximité lui rappelait qu'elle avait un jour été enfant. Qu'est-il arrivé à ma petite fille qui posait toujours tant de questions?
Dalinar l'attira près de lui. La bienséance pouvait bien aller à la damnation. Non loin de là, les 3 gardes gênés détournèrent le regard.
Ils vont me prendre mon fils aussi,
chuchota Navani.
Ils essaient.
Je le protégerai, promit Dalinar.
Et vous, qui vous protégera?
Il n'avait aucune réponse à cette question. Dire que ses gardes s'en chargeraient lui semblait un lieu commun. Ce n'était pas là ce qu'elle lui demandait. « Qui vous protégera au retour de cet assassin ?»«
Je souhaiterais presque votre échec, » déclara-t-elle. En assurant la cohésion de ce royaume, vous vous désignez comme une cible. Si tout s'effondrait simplement et que nous redevenions des principautés, peut-être nous laisserait-il tranquille ?
Et alors la tempête surviendrait, répliqua doucement Dalinar. 11 jours. Navani finit par s'écarter de lui, hochant la tête, et retrouva son calme.
Vous avez raison, évidemment. C'est simplement que c'est la première fois pour moi, la première fois que je dois affronter ça. Comment avez-vous fait face quand Shh est morte? Je sais que vous l'aimiez, Dalinar. Vous n'êtes pas obligé de le nier pour protéger mon ego.
Il hésita. La première fois. Ça sous-entendait que la mort de Gavilar ne l'avait pas terrassée. Elle n'avait jamais affirmé aussi ouvertement les difficultés qu'elle avait connues.
« Je suis désolée, » répondit-elle. « Était-ce une question trop difficile parce qu'elle vient de moi ?»
Elle rangea son mouchoir qu'elle avait utilisé pour se tamponner les yeux.
« Veuillez m'excuser. Je sais que vous n'aimez pas parler d'elle. »
Ce n'était pas que la question soit difficile. Simplement, Dalinar ne se souvenait pas de sa femme. Comme c'était curieux qu'il puisse s'écouler des semaines sans qu'il remarque même ce trou dans ses souvenirs, ce changement qui avait arraché une partie de lui et l'avait laissé rapiécer, sans même une bouffée d'émotion lorsque son nom, qu'il ne pouvait entendre, était prononcé.
Mieux valait changer de sujet. Je ne peux pas m'empêcher de supposer que l'assassin est impliqué dans tout ça, Navani. La tempête en approche, les secrets des plaines brisées, et même Gavilar. Mon frère savait quelque chose qu'il n'avait pas partagé avec aucun d'entre nous.
Tu dois trouver les mots les plus importants qu'un homme puisse prononcer.
Je donnerais pratiquement tout pour savoir de quoi il s'agissait.
Sans doute, admit Navani. Je vais me replonger dans mes journaux de l'époque. Peut-être a-t-il dit quelque chose qui nous fournirait des indices, même si je vous préviens que je les ai déjà parcourus des dizaines de fois.
Dalinar hocha la tête.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une préoccupation pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est eux, notre objectif.
Ils se retournèrent et regardèrent des voitures passer bruyamment en direction du bassin des fêtes tout proche, où des lumières brillaient d'un violet étouffé dans la nuit. Il étrécit les yeux et s'aperçut que la voiture de Ruthar approchait. Le haut prince avait été dépouillé de ses éclats, à l'exception de sa propre lame. On avait tranché le bras droit de sa déesse dans l'affaire, mais sa tête était toujours en place, et elle était hérissée de crocs venimeux. Les autres hauts princes représentaient un problème presque aussi important que sa déesse. Il lui résistait parce qu'il voulait que les choses soient faciles, comme elles l'avaient été jusque-là. Il se gavait de leur richesse et de leur jeu. Les festins l'exprimaient trop manifestement avec leur nourriture exotique, leurs costumes coûteux. Le monde lui-même semblait proche de la fin, et les Aleti faisaient la fête.
« Vous ne devez pas les mépriser, » dit Navani.
Dalinar se fit encore plus pensif. Elle lisait trop bien en lui.
« Écoutez-moi, Dalinar, » dit-elle en le faisant pivoter pour qu'il la regarde droit dans les yeux. « Est-il jamais sorti quoi que ce soit de bon lorsqu'un père a détesté ses enfants ?»«
Je ne les déteste pas. » »«
Vous haïssez leurs excès, » répondit-elle. « Et vous êtes tout près de leur appliquer la même émotion. Ils mènent les vies qu'ils ont toujours connues, celles dont la société leur a enseigné qu'elles étaient adéquates. Vous ne les transformerez pas en les méprisant. Vous n'êtes pas malice. Ce n'est pas à vous qu'il revient de les dédaigner. » Votre travail consiste à les approuver, à les encourager. Dirigez-les, Dalinar.
Il inspira profondément et hocha la tête.
Je vais me rendre à l'îlot des femmes, dit-il en remarquant que le garde homme de pont revenait avec les nouvelles de l'attaque de plateau. Il me considère comme un vestige excentrique de choses qu'il vaudrait mieux laisser au passé, mais je crois qu'il m'écoute toujours. Parfois. Je vais faire mon possible.
Ils se séparèrent, Navani se hâtant vers le festin, Dalinar s'attardant pour que l'homme de pont lui transmette les nouvelles. La course avait été un succès, et l'on avait capturé un cœur de gemme. Il avait fallu très longtemps pour atteindre le plateau ciblé, situé au plus profond des plaines, presque au bord de la zone explorée.
Les Parchendi n'étaient pas apparus pour tenter de remporter le cœur de Jem, bien que leurs éclaireurs aient regardé de loin. Une fois de plus, ils décident de ne pas se battre. Songea Dalinar en parcourant le reste de la distance jusqu'au festin. Que signifie ce changement? Que planifie-t-il? Le bassin des fêtes se composait d'une série d'îlots spiricantés près du complexe du Pinacle. On l'avait, comme souvent, rempli d'eau, de sorte que les monticules spiricantés s'élèvent entre de petits canaux. L'eau brillait. On avait dû y déverser des sphères, et en grande quantité, pour lui donner cette teinte éthérée. Violette, assortie à la faible lueur de la lune qui se levait à peine à l'horizon. Des lanternes étaient placées par intermittence, équipées de sphères à la faible luminosité, peut-être afin de ne pas distraire de l'eau brillante. Dalinar traversa les ponts vers l'îlot le plus éloigné, celui du roi, où les hommes et les femmes se mêlaient et où seuls les plus puissants étaient invités. C'était là qu'il savait trouver les hauts princes. Même Bétab, tout juste rentré de sa course au pont, était déjà présent, quoiqu'il n'y ait rien d'étonnant à ce qu'il soit revenu si vite, car il préférait recourir à des compagnies de mercenaires pour composer le gros de son armée. Une fois le cœur de Jem capturé, il lui arrivait souvent de rentrer rapidement à cheval avec son trophée, en les laissant décider de la façon dont ils allaient repartir. Dalinar dépassa Malice, qui avait rejoint les camps de guerre avec son sens du mystère coutumier et insultait tous les passants. Il n'avait aucune envie d'une joute verbale avec lui aujourd'hui. Il chercha plutôt Vama. Le haut prince semblait avoir réellement écouté les supplications de Dalinar lors de leur dernier dîner. Peut-être avec davantage d'encouragement, accepterait-il de se joindre à son attaque contre les Parchendi. Tous les regards suivirent Dalinar tandis qu'il traversait l'îlot, et des conversations à mi-voix se répandaient comme la peste sur son passage. Il s'attendait désormais à ses regards, même s'ils le perturbaient toujours. Étaient-ils plus nombreux cette nuit? Plus insistants? Il ne pouvait plus se déplacer dans la société Aleti ces jours-ci sans surprendre un sourire sur des lèvres bien trop nombreuses, comme si tous ces gens étaient informés d'une plaisanterie de grande envergure qu'on avait omis de lui raconter. Il trouva Vama en train de s'entretenir avec un groupe de trois femmes. L'une d'entre elles était Sivi, une clarissime de la cour de Ruthar qui avait, contrairement aux coutumes, laissé son mari chez eux s'occuper de leurs terres pour venir seule dans les plaines brisées. Elle étudia Dalinar avec un sourire et un regard perçant comme un coup de poignard. Le stratagème destiné à affaiblir Sadeas avait échoué dans une large mesure. Mais c'était en partie parce que la honte et les dégâts avaient été reportés sur Ruthar et Aladar, qui avaient perdu des porte-éclats en la personne des hommes qui avaient défié Adoline en duel. En tout cas, ces deux-là ne se rallieraient jamais à Dalinar. C'étaient les partisans les plus acharnés de Sadeas. Les quatre personnes se turent en voyant approcher Dalinar. Le haut prince Vama jaugeait Dalinar de la tête aux pieds sous cette faible lumière. Près de lui se tenait un échanson avec une bouteille d'une quelconque liqueur exotique. Vama apportait souvent ses propres spiritueux au festin, quels qu'en soient les hôtes. Une grande partie des convives considérait comme un triomphe politique d'être assez brillant dans l'art de la conversation pour gagner le droit de déguster ce qu'on avait réussi à importer. Vama le salua Dalinar.
« Dalinar !»«
Il y a un sujet dont je souhaitais m'entretenir avec vous, » poursuivit Dalinar. « Je suis impressionné par ce que vous êtes parvenu à faire avec une cavalerie légère pendant vos attaques de plateau. Dites-moi, comment décidez-vous quand risquer une attaque frontale avec vos cavaliers? La perte de chevaux pourrait facilement dépasser ce que vous gagnez grâce au cœur de gemme. Mais vous êtes parvenu à trouver un équilibre grâce à d'intelligents stratagèmes. »
Je...
Vama soupira et regarda sur le côté. Un groupe de jeunes gens, près de là, ricanait en observant Dalinar.
C'est une question de...
Un autre bruit, plus fort, provint de l'autre côté de l'îlot. Vama reprit, mais ses yeux furent attirés dans cette direction, et un éclat de rire général s'accentua. Dalinar s'obligea à regarder, remarqua des femmes qui se couvraient la bouche de leurs mains, des hommes qui masquaient leurs exclamations par des quintes de toux.
une tiède tentative visant à maintenir la bienséance à Letty. Dalinar se retourna vers Vama. Que se passe-t-il ?
Je suis désolé, Dalinar.
Près de lui, Sivy cala des feuilles de papier sous son bras. Elle croisa et soutint le regard de Dalinar avec une nonchalance forcée.
Veuillez me pardonner, dit Dalinar. Serrant les poings, il traversa l'îlot en direction de la source du tapage. Les gens se turent en le voyant approcher, puis se séparèrent en groupes plus petits avant de s'éloigner. La rapidité avec laquelle ils se dispersèrent, le laissant face à Sadeas et Aladar, laissait presque penser que tout était planifié.
« Que faites-vous ? » leur demanda Dalinar à tous les deux.
« Nous festoyons, » lança Sadeas avant d'enfourner un morceau de fruit. « De toute évidence. »
Dalinar inspira vivement. Il lança un coup d'œil vers Aladar, qui était chauve avec un long cou, une moustache et une touffe de poils sur la lèvre inférieure.
« Vous devriez avoir honte, » gronda Dalinar.
« Mon frère vous considérait autrefois comme un ami. »
« Et pas moi ?»
demanda Sadeas.
« Qu'avez-vous fait ?» insista Dalinar. « De quoi les gens sont-ils tous en train de parler en ricanant derrière leurs mains ?»«
Vous partez toujours du principe que c'est moi ?» répondit Sadeas.
« Parce qu'à chaque fois que je pense que ce n'est pas vous, je me trompe. »
Sadeas lui sourit d'un air pincé. Il s'apprêtait à répondre, mais réfléchit un moment et se contenta finalement de fourrer un autre morceau de fruit dans sa bouche. Il mâchonna en souriant.
« C'est bon !» fut son seul commentaire. Puis il se détourna pour s'éloigner.
Aladar hésita, puis il secoua la tête et le suivit.
« Aladar !» lui lança Dalinar. « Je ne vous aurais jamais pris pour un chiot qui suit son maître à la trace. »
Pas de réponse. Avec un grognement, Dalinar se remit à traverser l'îlot à la recherche d'une personne de son propre camp de guerre qui ait pu entendre ce qui se passait. Elokar semblait en retard à son propre festin, bien que Dalinar le voie en train d'approcher à l'extérieur. Aucun signe de Teshav ou de Kal pour l'instant. Il ferait forcément une apparition, maintenant qu'il était un porte-éclat. Dalinar allait peut-être devoir se déplacer vers l'un des autres îlots où des pâles iris de moindre rang devaient socialiser. Il se mit en marche dans cette direction, mais une exclamation l'arrêta.
« Eh bien, clarissime Amaram !» s'écria Malice. « J'espérais parvenir à vous voir ce soir. J'ai consacré ma vie à faire en sorte que les autres se sentent atrocement mal, et c'est donc une véritable joie de voir quelqu'un d'aussi naturellement doué en la matière. »
Dalinar se retourna et remarqua Amaram, qui venait d'arriver. Il portait sa cape des chevaliers radieux et tenait une liasse de papier calée sous le bras. Il s'arrêta près de la chaise de Malice, et l'eau toute proche colora leur peau d'une teinte lavande.
« Est-ce que je vous connais ?» demanda Amaram.
« Non !» répondit Malice sur un ton léger. « Fort heureusement, vous pouvez ajouter ça à la très très longue liste de choses que vous ignorez. »«
Mais je vous ai rencontré à présent, » répondit Amaram en lui tendant la main.
« Voici donc la liste raccourcie d'un article. »« S'il vous plaît, » répondit Malice en refusant de serrer sa main. « Je ne voudrais pas que ça déteigne sur moi. »«
Quoi donc ?»«
Ce que vous avez utilisé pour que vos mains paraissent propres, clarissime Amaram, quoi que ça puisse bien être. Ça doit être quelque chose de très puissant. »
Dalinar se précipita pour les rejoindre.
« Dalinar !» dit Malice en hochant la tête.
« Malice. Amaram, que sont ces papiers ?»
« L'une de vos clercs s'en est saisie et me les a apportés, » répondit Amaram.
« Des copies faisaient le tour du festin avant votre arrivée. Votre clerc a pensé que la clarissime Navani aimerait peut-être les voir, si ce n'est déjà fait. Où est-elle ?»«
Elle vous évite, de toute évidence, » commenta Malice. « Quelle chanceuse !»«
Malice !» le tensa sévèrement Dalinar. « Je vous prie. »«
J'en suis flatté. »
Dalinar soupira, se retourna vers Amaram et lui prit les papiers.
La clarissime Navani se trouve sur un autre îlot. Savez-vous ce que disent ces papiers ?
L'expression d'Amaram s'assombrit.
Je préférerais n'en rien savoir.
Je pourrais vous frapper sur la tête avec un marteau, dit Malice d'une voix joyeuse. Un bon matraquage vous le ferait oublier, sans parler d'arranger cette sale figure qui est la vôtre.
Malice, dit Dalinar d'une voix grave.
Je plaisantais seulement.
Parfait.
Un marteau entamerait à peine son crâne épais.
Amaram se tourna vers Malice avec une expression incrédule.
Vous êtes très doué pour prendre cet air-là, commenta Malice. Beaucoup d'entraînement, j'imagine.
C'est lui le nouveau malicieux? Demanda Amaram.
Enfin, poursuivit Malice. Je ne voudrais pas qualifier Amaram de cornio.
Dalinar hocha la tête.
Parce qu'il me faudrait ensuite lui expliquer le sens de ce terme, et je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre d'entre nous ait le temps nécessaire.
Amaram soupira. Pourquoi personne ne l'a-t-il encore tué?
Le coup de chance le plus bête qui soit, répondit Malice. Dans le sens où j'ai de la chance que vous soyez tous si bêtes.
Merci, Malice, dit Dalinar en prenant Amaram par le bras pour l'entraîner sur le côté.
Encore une, Dalinar, s'écria Malice. Rien qu'une dernière insulte et je le laisserai tranquille.
Ils continuèrent à marcher.
Seigneur Amaram,
lança Malice qui se leva pour faire la révérence, la voix soudain plus grave.
Je vous salue. Vous êtes ce que des crétins de moindre envergure comme Sadeas ne peuvent qu'aspirer à devenir.
Les papiers, demanda Dalinar à Amaram, ignorant ostensiblement Malice.
Ce sont des récits de vos expériences, Clarissime, répondit Amaram tout bas. Celles que vous vivez lors des tempêtes, rédigées par la Clarissime Navani en personne.
Dalinar s'empara des pages. Ses visions. Il leva les yeux et vit des groupes de personnes en train de se rassembler sur l'îlot, qui bavardaient, riaient et lui lançaient des coups d'œil.
« Je vois, » dit-il tout bas. Ces ricanements masqués prenaient maintenant tout leur sens. « Trouvez-moi la Clarissime Navani, je vous prie. »«
Comme vous le souhaitez, » répondit Amaram,
mais il s'arrêta net et tendit le doigt. Navani traversait un îlot voisin pour les rejoindre d'un air furieux.
« Qu'en pensez-vous, Amaram ?» demanda Dalinar. « De ces choses que l'on raconte à mon sujet. »
Amaram le regarda droit dans les yeux.
« Ce sont manifestement des visions provenant du Tout-Puissant lui-même, qui nous sont accordées en ces temps de grande nécessité. Je regrette de ne pas en avoir connu le contenu plus tôt. Elles me donnent une grande confiance quant à ma position et quant à votre désignation comme prophète du Tout-Puissant. »
Un dieu mort ne peut avoir aucun prophète.
Mort ? Non, Dalinar. De toute évidence, vous interprétez mal ce commentaire provenant de vos visions.
Il parle d'être mort dans l'esprit des hommes, qui n'écoutent plus ses commandements.
Dieu ne peut pas mourir.
Amaram semblait tellement sincère. Pourquoi n'a-t-il pas aidé vos fils ?
Résonna la voix de Kaladin dans la tête de Dalinar.
Amaram était venu le voir ce jour-là, bien entendu, pour lui présenter ses excuses et lui expliquer que, avec sa nomination en tant que radieux, il ne pouvait absolument pas aider une faction contre une autre. Il affirmait qu'il devait être au-dessus des chamailleries entre hauts princes, même lorsqu'il en souffrait.
« Et le héros supposé ?» demanda Dalinar. « Cette question que je vous ai posée. »
« J'enquête toujours. »
Dalinar hocha la tête.
J'ai été surpris, commenta Amaram, que vous ayez gardé cet esclave comme chef de votre garde.
Il lança un coup d'œil sur le côté. Les gardes de Dalinar pour la nuit s'y tenaient un peu à l'écart de l'îlot, dans une zone qui leur était propre, où ils patientaient avec les autres gardes du corps et serviteurs, parmi lesquels un grand nombre de pupilles des dames Palziris présentes. À une époque pas si lointaine, peu de gens éprouvaient le besoin d'emmener leur garde à un banquet. À présent, l'endroit était bondé. Le capitaine Kaladin n'était pas là. Il se reposait après son emprisonnement.
« C'est un bon soldat, » dit tout bas Dalinar. « Simplement, il porte quelques cicatrices difficiles à guérir. »
« Védélédev sait, » songea Dalinar. Que je n'en manque pas moi-même.
Je redoute simplement qu'il ne soit pas capable de vous protéger correctement, répondit Amaram.
Votre vie est importante, Dalinar.
Nous avons besoin de vos visions, de votre autorité. Malgré tout, si vous faites confiance à cet esclave, alors qu'il en soit ainsi. Même si, personnellement, je ne serais pas contre entendre des excuses de sa part. Pas pour mon propre ego, mais pour savoir qu'il a renoncé à ses idées fausses.
Dalinar ne répondit pas, mais regarda Navani traverser à grands pas le court pont qui menait à leur îlot. Malis s'apprêta à proférer une insulte, mais elle le gifla au visage à l'aide d'une pile de papier et poursuivit en direction de Dalinar pratiquement sans lui accorder un coup d'œil. Malis la suivit du regard en se frottant la joue, puis sourit. Elle remarqua les papiers dans la main de Dalinar lorsqu'elle les rejoignit tous deux, au cœur d'un océan de regards amusés et de rires étouffés.
« Ils ont ajouté des mots, » siffla Navani.
« Pardon ?» demanda Dalinar d'une voix insistante.
« Ces papiers, savez-vous ce qu'ils contiennent ?»
Il hocha la tête.
« Ils ne sont pas tels que je les ai rédigés, » ajouta Navani. « Ils ont changé le ton et certains de mes mots pour ajouter une dimension ridicule à toute cette expérience et pour faire croire que je suis simplement en train de vous passer un caprice. Pire encore, ils ont ajouté des commentaires d'une autre écriture qui se moque de ce que vous dites et faites. »
Elle inspira profondément comme pour se calmer.
« Dalinar, ils cherchent à détruire tout vestige de crédibilité qui vous reste. »
« Je vois.
Comment se les sont-ils procurés ?» demanda Amaram.
« Ils l'ont volé, je n'en doute pas, » répondit Dalinar, qui venait de comprendre quelque chose.
« Navani et mes filles sont toujours des gardes, mais quand ils quittent leurs appartements, ceux-ci sont relativement sans protection. Nous nous sommes peut-être montrés trop négligents à cet égard. Je me suis trompé. Je croyais que ces attaques seraient physiques. »
Navani observa l'océan de pâles iris dont beaucoup se rassemblaient par groupes autour des différents hauts princes sous cette douce lumière violette. Elle s'approcha de Dalinar, et bien que son regard soit féroce, il la connaissait assez bien pour deviner ce qu'elle éprouvait. Une trahison. Une invasion. Des moments qui n'appartenaient qu'à eux leur avaient été arrachés, pour être ensuite tournés en dérision, puis affichés aux yeux du monde.
« Dalinar, je suis désolé, » dit Amaram.
« Ils n'ont pas modifié les visions elles-mêmes, » demanda Dalinar. « Ils les ont recopiées avec exactitude. »
« Pour autant que je puisse m'en rendre compte, oui, » répondit Navani. « Mais le ton est différent. Et il y a cette moquerie. Bourrasque, c'est révoltant. Quand je trouverai la femme qui a fait ça... »«
Du calme, Navani, » dit Dalinar en posant la main sur son épaule.
« Comment pouvez-vous dire ça ?»«
Parce qu'il s'agit là de l'action d'homme puéril qui croit que la vérité peut m'embarrasser. »«
Mais ces commentaires et ces modifications, ils se sont efforcés de vous discréditer. Ils ont même réussi à ridiculiser la partie où vous nous fournissez une traduction du chant de l'aube. C'est... »
« De même que je ne crains point l'enfant portant une arme qu'il peine à soulever. Jamais je ne craindrai l'esprit de l'homme qui ne réfléchit point. »
Navani le regarda d'un air songeur.
« C'est un extrait de la Voix des Rois, » expliqua Dalinar. « Je ne suis pas un jeune homme nerveux qui assiste à son premier banquet. Sa déesse commet une erreur en croyant que je vais réagir comme lui le ferait. Contrairement à une épée, le mépris ne possède que le mordant qu'on lui confère.
« Mais ça vous blesse, » répondit Navani en croisant ses yeux. « Je le vois bien, Dalinar. »
Avec un peu de chance, les autres ne le connaîtraient pas assez bien pour distinguer ce qu'elle voyait. Oui, ça le blessait, parce que ses visions lui appartenaient, lui avaient été confiées, afin d'être partagées pour le bien de l'humanité, et non pas utilisées comme objet de moquerie. Ce n'était pas le rire en soi qui le blessait, mais la perte de ce qui aurait pu être. Il s'écarta d'elle et traversa la foule. Il déchiffrait à présent certains de ses regards comme tristes plutôt que simplement amusés. Peut-être l'imaginait-il, mais il lui sembla que certains éprouvaient pour lui davantage de pitié que de mépris. Il ignorait laquelle de ses émotions était la plus nuisible. Dalinar atteignit la table où était disposée la nourriture, au fond de l'îlot. Là, il s'empara d'une grande casserole qu'il tendit à une servante abasourdie, puis se hissa sur la table. Il posa une main sur le piquet qui soutenait la lanterne à côté de la table et balaya la petite foule du regard.
les gens les plus importants d'Aletkar se trouvaient là. Ceux qui ne le regardaient pas déjà se retournèrent, stupéfaits, pour le voir là. Au loin, il aperçut Adoline et la clarissime Chalan qui se précipitaient sur l'îlot. Sans doute venait-il seulement d'arriver et avait-il entendu les rumeurs. Dalinar se tourna vers la foule.
« Ce que vous avez lu, hurla-t-il, est véridique. »
Silence stupéfait. On ne se donnait pas ainsi en spectacle en Aletkar. Lui, en revanche, avait déjà été le spectacle de cette soirée.
« Des commentaires ont été ajoutés afin de me discréditer, » poursuivit-il. « Et le ton des écrits de Navani a été modifié. Mais je ne vais pas cacher ce qui m'arrive. Je reçois des visions du Tout-Puissant. » Elles surviennent à chaque tempête, ou presque. Cette nouvelle ne devrait pas vous surprendre. Des rumeurs relatives à mon expérience circulent déjà depuis des semaines. Peut-être aurais-je déjà dû rendre ces visions publiques. À l'avenir, toutes celles que je recevrai seront publiées, afin que des érudits du monde entier puissent étudier ce que j'aurai vu.
Du regard, il chercha Sadeas, qui se tenait debout avec Aladar et Rutar. Dalinar saisit le piquet de la lanterne et reporta son attention sur la foule allaitie.
Je ne vous reproche pas de m'avoir cru fou, c'est naturel. Mais lors des nuits à venir, quand la pluie cinglera vos murs et que le vent hurlera, vous vous interrogerez, vous vous poserez des questions, et bientôt, lorsque je vous offrirai des preuves, vous saurez. Cette tentative visant à me détruire finira au contraire par me donner raison. »
Il étudia leurs visages, dont certains étaient atterrés, d'autres compatissants, d'autres encore amusés.
« Certains d'entre vous supposent que je vais fuir ou être brisé en conséquence de cette attaque, » reprit-il. « Ils me connaissent beaucoup moins qu'ils ne le croient. Que le banquet continue, car je souhaite m'entretenir avec chacun d'entre vous. » Les mots que vous retenez sont peut-être moqueurs, mais si vous devez rire, faites-le en me regardant droit dans les yeux. »
Il descendit de la table, puis se mit au travail. Quelques heures plus tard, Dalinar s'autorisa enfin à s'asseoir sur une chaise à côté d'une table du banquet, entourée d'un tourbillon de spren d'épuisement. Il avait passé le restant de la soirée à se déplacer parmi la foule, s'insérant de force dans les conversations, rassemblant des soutiens pour son excursion dans les plaines. Il avait résolument ignoré les pages retraçant ses visions, sauf lorsqu'on lui posait des questions directes quant à ce qu'il avait vu. À la place, il leur avait présenté le visage d'un homme énergique et confiant, l'épine noire devenue homme politique. Qu'ils y réfléchissent donc en le comparant au démon fragile que les retranscriptions falsifiées voulaient faire de lui. Dehors, au-delà des petits cours d'eau, qui brillaient maintenant d'un éclat bleu, les sphères ayant été remplacées pour être assorties à la deuxième lune, la voiture du roi s'éloignait, emportant Elokar et Navani sur la courte distance jusqu'au pinacle, où des porteurs les feraient voyager en palanquin jusqu'au sommet. Adoline s'était déjà retirée, escortant Chalan jusqu'au camp de guerre de Sébarial, qui se trouvait à une bonne distance à cheval. Adoline semblait plus attachée à la jeune Védène qu'à toute autre femme dans un passé proche. Pour cette seule raison, Dalinar était de plus en plus enclin à encourager cette relation, à supposer qu'il parvienne jamais à soutirer des réponses claires de Jacques et Vède au sujet de sa famille. Ce royaume était plongé dans une sacrée pagaille. La plupart des autres Palsiris s'étaient retirés, le laissant sur un îlot peuplé de serviteurs et de parches qui nettoyaient les tables. Quelques maîtres serviteurs auxquels on confiait ce genre de tâches commençaient à récupérer les sphères dans l'eau à l'aide de filets au bout de longs piquets. Les hommes de pont de Dalinar, sur sa suggestion, attaquaient les restes du banquet avec l'appétit vorace qui était le propre des soldats à qui l'on offrait un repas inattendu. Un serviteur, passant près de là d'un pas nonchalant, s'arrêta et posa la main sur l'épée qu'il portait au côté. Dalinar sursauta et se rendit compte qu'il avait pris l'uniforme militaire noir de Malice pour celui d'un maître serviteur en cours de formation. Dalinar afficha une expression ferme, mais il geignit intérieurement. Malice. Maintenant,
Dalinar eut la sensation qu'il venait de se démener sur le champ de bataille pendant 10 heures d'affilée. Curieux comme quelques heures de conversation délicate pouvaient y ressembler autant.
« C'était rusé, ce que vous avez fait ce soir, » lui dit Malice. « Vous avez transformé une attaque en promesse. Les plus sages des hommes savent que pour rendre une insulte impuissante, il suffit souvent de l'assumer pleinement. »
« Merci, » répondit Dalinar. Malice hocha vivement la tête, suivant du regard la voiture du roi en train de disparaître.
« Je me suis retrouvé ce soir sans grand-chose à faire, et Lokar n'avait pas besoin d'un malicieux, car peu de gens cherchaient à lui parler. Tous venaient vous voir à la place. »
Dalinar soupira, et toute sa force parut le déserter. Malice n'avait rien formulé tout haut, mais c'était inutile. Dalinar déchiffrait les sous-entendus. « Ils sont venus vous trouver plutôt que le roi, parce que, au fond, c'est vous, le roi. »
« Malice, » s'entendit demander Dalinar, « suis-je un tyran ?»
Malice haussa un sourcil et sembla réfléchir à un trait d'esprit intelligent. Il y renonça aussitôt.
« Oui, Dalinar, Colline, »
murmura-t-il sur un ton consolateur, comme on parlerait à un enfant en larmes.
« Oui, vous en êtes un ?»«
Je ne le souhaite pas. »
« Avec tout le respect que je vous dois, Clarissime, ce n'est pas tout à fait vrai. » « Vous cherchez le pouvoir. Vous vous en saisissez et ne lâchez prise qu'à grand mal. »
Dalinar baissa la tête.
« Ne vous lamentez pas, » lui dit Malice. « C'est une ère pour les tyrans. Je doute que cet endroit soit prêt pour quoi que ce soit d'autre. Et mieux vaut un tyran bienveillant que la catastrophe que représente un règne faible. À un autre endroit, à une autre époque. » Je vous aurais peut-être dénoncé avec de la bile et des crachats, mais ici, aujourd'hui, je vais vous louer comme ce dont ce monde a besoin. »
Dalinar secoua la tête.
« J'aurais dû autoriser Elokar à régner, plutôt que de m'en mêler comme je l'ai fait. »
« Pourquoi donc ?»«
Parce qu'il est le roi. »
« Et cette position est quelque chose de sacro-saint ?»«
Non, » reconnut Dalinar. « Le Tout-Puissant ou celui qui affirme être lui est mort, et quand bien même ça n'aurait pas été le cas, ma famille n'a pas acquis la royauté naturellement. Nous nous en sommes emparés et l'avons imposée aux autres hauts princes. »
« Pourquoi dans ce cas ?»«
Parce que nous avions tort, » répondit Dalinar. « Gavilar, Sadeas et moi avons eu tort de faire ce que nous avons fait toutes ces années auparavant. »
Malice sembla authentiquement surpris.
« Vous avez unifié le royaume, Dalinar. Vous avez fait du bon travail, quelque chose dont il avait furieusement besoin. »«
C'est ça, l'unité ?» demanda Dalinar en désignant les vestiges épars du banquet, les pâles iris sur le départ. « Non, Malice, nous avons échoué, nous avons écrasé, tué, et nous avons lamentablement échoué. »
Il leva les yeux.
« Ce qui arrive à Aletkar, c'est moi-même qui l'ai appelé. En nous emparant du trône par la force, nous avons sous-entendu, non, nous avons hurlé que c'est la force qui donne le droit de régner. Si Sadeas s'estime plus fort que moi, alors c'est son devoir d'essayer de me reprendre le trône. Ce sont là les fruits de ma jeunesse, Malice. C'est pourquoi il nous faut davantage que la tyrannie, même bienveillante, pour transformer ce royaume. » C'est ce que Noadon enseignait, et c'est là ce qui m'a échappé pendant tout ce temps.
Malice hocha la tête, l'air songeur.
Il faut apparemment que je relive votre livre, là. Je voulais cependant vous mettre en garde. Je vais bientôt partir.
Partir ? Demanda Dalinar. Vous venez d'arriver.
Je sais, c'est incroyablement frustrant, je dois l'avouer. J'ai découvert qu'il y a un endroit où je dois me rendre, même si, pour être honnête, je ne sais pas exactement pourquoi je dois m'y rendre. Ça ne fonctionne pas toujours aussi bien que je le voudrais. »
Dalinar le regarda en fronçant les sourcils. Malice lui répondit par un sourire affable.
« Êtes-vous l'un d'entre eux ?»
demanda Dalinar.
« Je vous demande pardon ?»
« L'un des héros. »
Malice éclata de rire.
« Non, merci, mais non !»«
Êtes-vous ce que je cherchais dans ce cas ? »
poursuivit Dalinar. Un radieux ? Malice sourit.
Je ne suis qu'un homme, Dalinar, au point que je le regrette parfois. Je ne suis pas un radieux. Et bien que je sois effectivement votre ami, veuillez comprendre que nos objectifs ne coïncident pas totalement. Vous ne devez pas vous placer entre mes mains. Si je dois regarder ce monde s'effondrer et brûler pour obtenir ce que je veux, je le ferai, avec les larmes aux yeux, oui, mais je le laisserai advenir.
Dalinar fronça les sourcils.
Je ferai mon possible pour me rendre utile, poursuivit Malice, et pour cette raison, je dois partir. Je ne peux pas trop courir de risques, car s'il me retrouve, je serai réduit à néant, une âme déchirée, en lambeaux, brisée en fragments, impossible à recoller. Ce que je fais ici est plus dangereux que vous ne pourriez jamais l'imaginer.
Il se détourna pour partir. Malice, l'appela Dalinar.
Oui ?
Si qui vous retrouve ?
Celui que vous combattez, Dalinar Colline. Le père de la haine.
Malice le salua, puis s'éloigna en trottinant.